le mois de septembre en bourse, entre peur, mais aussi piège. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Alors que démarre ce mois de septembre, qui possède les plus mauvaises statistiques ever, qu'il s'agisse d'ailleurs du marché action, représenté dans cette analyse par le S&P 500, ou encore les actifs risqués, représentés naturellement par la classe d'actifs la plus risquée, le marché des crypto-monnaies mené par son leader, le cours du Bitcoin, qui lui aussi a un mois de septembre faible depuis l'historique à notre disposition, 2009. Donc je parle ici de statistiques, le mois de septembre entre peur et piège. Pourquoi piège ? Parce que dans certaines configurations, certaines années, dans certains contextes, le mois de septembre a peut-être été faible au début, mais il fut aussi le mois d'un bottom majeur avant une forte hausse qui durera jusqu'à la fin d'année. Alors, septembre, entre peur et piège, le mois de septembre en bourse, entre point de départ d'un grand bear market, point de départ d'une grande correction pour venir interrompre ce marché haussier qui a commencé sur le S&P 500, mais aussi le BTC au début de, à la fin de l'automne 2022, entre peur et piège. Première partie, saisonnalité statistique. On va faire ce qu'on appelle la saisonnalité, c'est des stats. Bête et méchant, S&P 500, oui. Le S&P 500 a un mois de septembre faible. Je vous dis tout, car attention, il faut pas savoir creuser entre les chiffres. Deuxième partie, bon, je parle ici du marché action. Je parle en fait de manière générale des actifs risqués en bourse. Quel actif plus risqué que le BTC ? Je pense que je traite ce sujet parce qu'il représente l'attrait pour le risque. Et là, je parle bien de ce mois de septembre et de la façon dont les capitaux vont s'orienter par rapport à ces actifs dits risqués. Donc deuxième partie, sur le BTC, que peut-on attendre de ce mois de septembre 2025 ? Attention, vous allez voir qu'on va un peu creuser les choses et d'où mon titre. Septembre entre peur et piège. Je me méfie toujours des consensus. Et là, autant vous dire que le consensus est bériche partout et que le marché prend souvent un malin plaisir à piéger le consensus. Ou pas forcément dès le premier du mois, mais parfois à partir de la fin de la première semaine. Prenons un revers, ceux qui attendent et ceux qui jouent l'effondrement, le marché marque un bottom et se reprend. Troisième partie, on parle du mois de septembre. Premier rendez-vous, premier temps fort, vendredi 5 septembre, le rapport NFP. C'est ce vendredi, j'en dis un mot. Quatrième partie, on ne perdra pas de temps, puisque dès le 10 et le 11 septembre, vous avez le PPI et le CPI. Vous vous souvenez du dernier PPI en surchauffe ? Attention, le NFP du 5 septembre, le PPI du 10 septembre, le CPI du 11 septembre vont forger définitivement la décision de politique monétaire que prendra la Fed le 17 septembre. Mais attention, le 17 septembre, et c'est la partie d'après, la Fed ne fait pas que prendre une décision en matière de taux. Nous verrons déjà le nouveau rapport de force au sein du FOMC. Est-ce que Stephen Miran va voter ou pas ? Vous savez, celui que Trump vient de nommer au sein du FOMC. D'autre part, la Fed le 17 septembre met à jour ses projections macroéconomiques. Et la Fed le 17 septembre, en mettant à jour ses projections macroéconomiques, nous dit ses anticipations d'inflation, ses anticipations d'en croissance, ses anticipations d'emploi. Et surtout, la Fed nous dit combien il y aura de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Il n'y a plus de temps pour tergiverser. Il reste trois décisions de politique monétaire. Et le 17 septembre, la Fed nous dit ce qu'elle fera. Et autant vous dire que, rappelez-vous, le Top Gun de la semaine dernière, pas de pivot, pivot technique, pivot réel. Rappelez-vous l'impact potentiel sur les différentes classes d'actifs. Le choix sera connu le 17 septembre au plus tard, mais moi je pense dès le 5 septembre avec le NFP. Sixième partie, Big Beautiful Bill. C'est vrai qu'on parle que d'emploi, que d'inflation, que de croissance. Attention, n'oubliez pas la dette américaine, astronomique, avec une charge de la dette qui bientôt sera équivalente au budget de la défense des États-Unis, 900 milliards de dollars. Surveillez-moi les taux longs US, j'en dis un mot. Septième partie, bon, un petit mot sur la France, cette bonne vieille France. Bon, il reste quand même une économie qui compte en Europe, seconde économie, et donc forcément les enjeux politiques de rentrée. Je vous présente ce que j'estime être le baromètre du risque. Car vous savez, si la France est déstabilisée d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue bancaire, d'un point de vue du crédit, derrière, les banques françaises sont impliquées dans toute l'Europe, donc c'est tout le secteur bancaire européen. Derrière, ça pénalise donc tous les actifs risqués européens. Et donc, il y a un effet de contagion. Attention, l'impact de l'économie française ne se réduit pas à la seule France. Donc, oui, ça compte. D'ailleurs, Bloomberg fait souvent des articles sur ce risque politico-économique français et sur le risque de crédit. Donc, je vous en parle et je vais vous montrer un baromètre à suivre. Septième partie, il y aura plein de nouvelles choses dans la septième partie. Et donc, on attaque cette nouvelle édition du Top Gun. Septembre en bourse entre peur et piège. On attaque. Le plan, je vais donner à l'instant. Le plan, je l'affiche. Vous voyez, c'est chargé. C'est chargé, mais rassurez-vous. J'ai pas fait de slide comme d'habitude, en écrivant dans tous les sens mes pensées. Comme ça, vous n'aurez pas à lire. Il y a juste des grands titres, et derrière, je vous montre des illustrations. Donc, le S&P 500 est effectivement le pire mois. Le mois de septembre, pardon, est effectivement le pire mois du S&P 500 en termes de saisonnalité. Je vous rappelle une chose. Le S&P 500 est revenu à son record de valorisation de la fin de l'année 2021. Vous le savez, le contexte est différent, politique, monétaire, budgétaire, mais tout de même, nous y sommes, et forcément, nous y sommes, et le marché se présente cette fois-ci au mois de septembre, alors que pour le S&P 500, on attaque. Première partie, commençons par des choses simples. Saisonnalité du S&P 500. Effectivement, alors, on va regarder un peu les chiffres différemment. Déjà, je vous rappelle une chose. Ces données de saisonnalité, vous avez vu que je rebondis. Et si je rebondis, c'est parce que je suis assis sur un ballon dit de kiné. Et je vous conseille ça pour votre dos, chers amis. C'est très utile, c'est pratique. Moi, ça, j'ai un débordis, j'ai un pincement discal dans le bas du dos. Et ça me sauve. Bon, bien sûr, faut faire beaucoup de sport, faut nager, faut bouger. C'est minimum une session de sport par jour. Bon, allez, une, deux, c'est trop. Bon, saisonnalité. Alors, ce sont des moyennes. Effectivement, le mois de septembre a une performance moyenne sur le S&P 500 de moins 0,6. Deux choses à retenir. Premièrement, c'est le seul mois sur 12 avec une performance moyenne négative. Deuxièmement, effectivement, nous avons pu observer par le passé des mois de septembre catastrophiques, mais derrière, tous les bottoms de septembre étaient le point de départ de cette fameuse accélération de fin d'année. Alors, rallye de Noël, rallye de fin d'année, j'aime pas ces expressions, mais en termes de saisonnalité, novembre et décembre ont toujours été d'excellents mois, et en fait, septembre-octobre amorçait les choses. Donc il faut voir toujours, il y a plusieurs façons de voir ces statistiques. Déjà, ce ne sont des moyennes. Une moyenne, ce n'est pas parce que la performance moyenne est à moins 0,6 que le S&P 500 ne va pas nous faire plus 10 ce mois de septembre. C'est juste une moyenne. Donc il y a des mois positifs, des mois négatifs. Donc ça, déjà, je voulais remettre les choses dans leur contexte. Parce que moi, là, j'ai titré sur la peur, le piège, je vais vous montrer plein de choses négatives. Mais au fond de moi, je pense que ce mois de septembre va bien se terminer. Donc, je vais vous donner ma vision, ma version des choses. Et effectivement, une moyenne, ce n'est qu'une moyenne. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fera moins 0,6. Et si nous sommes à moins 0,6, dites-vous bien, c'est qu'il y a eu beaucoup de mois positifs, tout comme il y a eu beaucoup de mois négatifs. Mais c'est, par contre, de tous les mois, alors août n'était pas terrible, et c'est vrai que c'est le seul en négatif. Ok, première information. Deuxième information, vous retrouvez ici les statistiques de saisonnalité, donc, pour S&P 500, concentrez-vous sur cette seconde colonne. Cette seconde colonne vous donne le pourcentage de mois qui sont en hausse et en baisse pour le S&P 500. Eh bien, vous avez eu, certes, le mois de septembre est le seul mois de l'année qui a une performance moyenne négative, mais il y a quand même 47% de mois de septembre qui ont une performance positive. Donc, en gros, une chance sur deux d'avoir un mois bullish ou bearish. Donc, vous voyez tout de suite, J'ai voulu commencer par ça parce que ces statistiques de saisonnalité que je vous montre, elles circulent partout. Et vous avez partout les articles de la peur. Oui, on va peut-être se faire peur cette première semaine du mois de septembre. Mais dites-vous bien une chose, les drops de septembre sont quasi systématiquement des opportunités pour jouer la hausse de fin d'année. Donc, on relativise déjà ces statistiques dites de saisonnalité sur le S&P 500. Et de manière générale, dites-vous bien une chose, c'est que le S&P 500 reste bullish tant qu'il se maintient au-dessus des 6150 points. En fait, pour le S&P 500 en hebdo, alors oui, là, il a atteint une cible, c'est importante, mais tant qu'on est au-dessus des 6160 points, ça peut retest. Et moi, je reste convaincu que d'ici la fin de l'année, on ira chercher cet objectif des 6700 points. Rappelez-vous, qui est l'objectif médian des analyses financières. C'est basé sur les fondamentaux, c'est pas basé sur la technique. J'avais ici un premier objectif technique qui a été touché, peut-être encore en train d'être dépassé, mais quand bien même on fasse d'abord ça et ça, ou ça, ça, ça et ça, je pense qu'on ira à 6700. Et d'autre part, en donner, c'est vraiment ici le gros niveau de support. Au-dessus de ce niveau, c'est bullish. Maintenant, est-ce qu'on fait d'abord ça ou est-ce qu'on continue? Ça, c'est du court terme. Et peu importe, la tendance haussière de fond, elle est préservée tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau. Septembre est le pire mois de l'histoire du cours du Bitcoin. Alors, est-ce que le mois de septembre 2025 peut être différent? Donc déjà, là, je vous ai quand même montré deux choses. C'est que septembre est le pire mois du S&P 500. Septembre est le pire mois statistique pour le cours du Bitcoin. Et il y a en plus une corrélation positive entre le S&P 500 et le cours du Bitcoin. Tout ça se tient. Mince. Bon. Mais là aussi, encore une fois, effectivement, pour Bitcoin, c'est une performance moyenne qui est négative. Et ça dépend des années. Et je vais vous montrer des choses intéressantes. Vous prenez le mois de septembre, il y a une performance moyenne de moins 3,77. Effectivement, vous prenez la performance moyenne de tous les mois du BTC et le mois de septembre est le seul à avoir une performance baissière. Mais prenez notre cycle en cours, le cycle du BTC qui a commencé à l'automne 2022. Eh bien, regardez les deux derniers mois de septembre, septembre 2024 et septembre 2023, ont eu une performance positive et en plus, non seulement septembre 2023 et septembre 2024 ont eu une performance positive, mais ils furent le point de départ de l'accélération de fin d'année. Par contre, prenez ici la première semaine. Ici, on avait droppé. Regardez. Première semaine de septembre, on avait corrigé et on était reparti. Donc, si ce schéma se répète et si, par exemple, Bitcoin propose une correction la première semaine du mois de septembre, celle-ci pourrait être encore une fois une opportunité. Donc, oui, septembre est faible, septembre est volatile, mais septembre a souvent été le mois où était enregistré un important bottom pour la reprise de fin d'année, parce que la période octobre-décembre a, elle, par contre, d'excellentes statistiques. Donc c'est pour ça. Comment voyez-vous les choses? Vers à moitié plein ou vers à moitié vide? Vers à moitié vide, ah, septembre est pourri, tout va s'effondrer, etc. Vers à moitié plein, ok, septembre est pas top, mais c'est une opportunité d'achat pour jouer la saisonnalité favorable de fin d'année. Do you copy me, guys? Do you copy me? Alors, pour Bitcoin, nous sommes en fin de cycle, il est censé se terminer en fin d'année. Le mois, alors, c'est vrai que lorsque l'on compare les cycles, ici vous avez notre cycle actuel et les trois cycles précédents, on voit bien que septembre, vous avez ici l'alignement calendaire des cycles. Septembre était vraiment un mauvais mois avant que derrière ça bourre. Mauvais mois, ça bourre. Mauvais mois, ça bourre. Sauf que nous sommes en fin de cycle. Et nous sommes notamment 500 jours après le halving, et nous sommes 1015 jours depuis le point bas de l'ancien bear market. Et lorsque vous alignez les cycles, non pas d'une façon calendaire, mais que vous alignez les cycles en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le halving, on constate qu'à partir de 500 jours après le halving, les trois cycles précédents ont pumpé. Donc, nous, on va y arriver, 500 jours après le halving. Et lorsque vous alignez les cycles en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis le point bas du précédent bear market, les deux cycles précédents arrivaient dans une période où ils pumpaient et nous y arrivons. Donc là aussi, tout est question de perspective. Oui, la perspective calendaire rend les choses compliquées pour ce mois de septembre, mais la perspective halving et la perspective nombre de jours écoulés depuis le point bas du précédent bear market, ou encore la perspective qui consiste à comparer notre mois de septembre 2025 avec ce que furent les mois de septembre de notre cycle, c'est-à-dire le cycle qui a commencé à l'automne 2022 et qui est lié au halving du printemps 2024, eh bien, nous dit au contraire que septembre peut peut-être être faible au début, mais qu'au final, c'est l'opportunité d'achat et derrière, ce sera bullish. Donc, septembre, par rapport à ce que je viens de vous montrer là, et là, j'ai commencé par la partie technique et statistique. Ensuite, tous les fondamentaux qui vont, parce que vous savez bien que septembre, c'est les fondamentaux qui vont décider, mais vous voyez que déjà, en excluant les fondamentaux et en se concentrant uniquement sur l'aspect statistique, technique, cyclique, alors, peur ou piège ? Peur, tout s'effondre, et c'est le début du bear market. Piège, peut-être qu'on va être faible au début, mais que derrière, ça va être méga bullish. Opportunité. Peur ou piège ? Peur ou piège ? Allez-y, donnez-moi votre avis. Alors, peur ou piège ? La réponse, bien sûr, sera, comme d'habitude, d'ordre fondamental. Et il ne faudra pas attendre trop longtemps, puisque dès le vendredi 5 septembre sera publié le fameux rapport NFP qui va décider de l'action de la Fed du 17 septembre. Le rapport NFP, ce rapport sur le marché du travail américain, rappelez-vous, les trois derniers rapports NFP ont été mauvais. Pourquoi ? Parce que vous avez eu moins de 100 000 créations nettes d'emplois. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il faut au minimum 100 000 créations nettes d'emplois chaque mois pour absorber les arrivées dans la population active. Trois mauvais rapports NFP consécutifs. Alors, à votre avis, ce vendredi 5 septembre, y aura-t-il à nouveau moins de 100 000 créations nettes d'emplois ? Si ce vendredi 5 septembre, le NFP est faible à nouveau, vous êtes quasi certain que la Fed baissera ses taux en septembre et peut-être même davantage d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle que le nombre de chômeurs aux États-Unis est à 7 236 000 au plus haut depuis 4 ans et qu'il est sur le point de franchir un seuil. Si ce chiffre est mis à jour vendredi 5 septembre, et autant vous dire que s'il accélère, c'est la garantie que la Fed baissera ses taux le 17 septembre. Quelle en sera la lecture du marché ? Un chômage qui monte, c'est une Fed qui baisse ses taux, mais un chômage qui monte, c'est aussi une économie qui a ralenti, donc les bénéfices, c'est pas top. Alors, peur ou opportunité ? Quand je dis peur ou piège, c'est peur ou opportunité. Piège, c'est piège bearish, vous avez compris. Je vous donne les éléments, vous forgez votre propre opinion, les amis. Et nous ne perdrons pas de temps, puisque le 10 septembre et le 11 septembre, vous avez vu, hein, j'ai pas fait les slides habituels, c'est plus dynamique, c'est... voilà. Bon, je ferai ça une fois sur deux, comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et on ne perd pas de temps, puisque le 10 septembre et le 11 septembre, donc vous avez pigé que d'ici la fête du 17 septembre, il reste le rapport NFP du 5 septembre, le CPI, inflation CPI le 11 septembre, et les prix à la production, les prix sortis d'usine, le PPI le 10 septembre. Pourquoi c'est important ? Parce que le dernier PPI était chaud, brûlant. Je vous montre ça, le dernier PPI. Alors, donc, vous avez les prix à la production le mercredi 10 septembre et l'inflation CPI le 11 septembre. Ensuite, c'est la Fed. Et rappelez-vous ce que fut la dernière lecture du core PPI, plus 0,9. En gros, celui-là, il est attendu. Était-ce un coup d'épée dans l'eau par rapport à un ajustement lié aux tarifs douaniers ? Ou est-ce que ça devient persistant ? Est-ce qu'on va empiler les lectures en surchauffe comme ça ? Le PPI va être hyper regardé. Et dès le 11, vous avez ensuite l'inflation CPI. Et derrière, la Fed prendra sa décision. Donc, le mois de septembre, est-ce qu'il va coller à sa saisonnalité ? Est-ce que le mois de septembre va au contraire être un piège bearish pour ceux qui jouent la saisonnalité baissière et qu'en fait, derrière, ça repart fort ? Les fondamentaux vont décider. Donc, ce ne sont pas les statistiques qui vont faire notre mois de septembre. Ce sont les fondamentaux qui vont alimenter les statistiques. S'il n'y avait eu aucun fondamental d'ici le 17 septembre, on aurait pu rester vraiment sur l'angle technique, cyclique, statistique. Mais l'angle technique, cyclique, statistique, je vous ai montré en début de vidéo que les messages étaient contradictoires. Donc, on va pas avoir le choix. On va devoir vraiment forger notre opinion en tenant compte des fondamentaux. Et donc, nous continuons d'avancer dans ce mois de septembre et nous arrivons au jour le plus chaud. Pause 30 secondes de réflexion. Ça fait 30. Mercredi 17 septembre. Vous savez quoi ? Que la Fed baisse ses taux ou pas, on s'en fiche. Et même si elle baisse ses taux, on s'en fiche. Pourquoi ? Ah, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça, non. Le 17 septembre, oui, il y aura sûrement une baisse de taux technique. Alors, de la Fed. En réalité, le marché va regarder une seule chose. Le 17 septembre, le marché n'aura Dieu que pour ça. Vous regardez bien, je suis ici sur le site de la Fed. Vous avez là un petit astérix. Et oui, le mercredi 17 septembre, la Fed met à jour ses projections macroéconomiques. Le mercredi 17 septembre, la Fed met à jour ses anticipations en matière de croissance économique, ses anticipations en matière d'emploi, ses anticipations en matière d'inflation et surtout la Fed, le 17 septembre, met à jour ses anticipations en matière de taux d'intérêt. Et derrière, nous saurons exactement ce qu'elle fera. Rappelez-vous le débat, pivot technique, absence de pivot, pivot réel, le top gun de la semaine dernière. Rappelez-vous, eh bien, la Fed va le dire ce 17 septembre. On va regarder deux choses. Ses nouvelles anticipations en matière d'inflation. Est-ce qu'elle va nous dire que les tarifs douaniers ont un impact persistant ou transitoire ? C'est une question d'adjectif. La vie monétaire n'est qu'une question d'adjectif. Persistant ou transitoire. Et surtout, la Fed qui en juin dernier nous disait qu'il y avait deux baisses de taux, regardez, va-t-elle les confirmer pour cette année ? Parce que imaginez, si là elle baisse les taux en septembre et qu'elle modifie ça à la hausse, elle nous dit qu'il n'y a qu'une seule baisse de taux, qu'il n'y en aura pas d'autre. Si elle baisse les taux en septembre et qu'elle laisse 3,9, c'est qu'il y a encore la possibilité d'une autre baisse de taux. On a 4,5. Donc ça, bah voilà, c'est la clé. En fait, ce tableau permettra de savoir si septembre va s'inscrire dans la saisonnalité ou si au contraire, il aura été un piège de saisonnalité. Ça, c'est le top gain que je vous ai proposé la semaine dernière. Pas de pivot, pivot technique, pivot réel. Et derrière, l'impact sur les différentes classes d'actifs, je vous renvoie vers le top gain de la semaine dernière. Et la décision et le choix seront faits le 17 septembre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé du FOMC, cet organe qui décide de la politique monétaire de la Fed. Et vous avez observé la façon dont l'administration Trump cherche à prendre le contrôle du FOMC. Déjà, ils ont fait arriver Stephen Miran, qui devrait pouvoir voter à partir de septembre ou d'octobre. Maintenant, ils essayent de s'attaquer à Lisa Cook, qui était pourtant en poste jusqu'en 2030 et quelques, qui fait partie des Neutral Dovish, donc du camp sous influence de Powell. Et petit à petit, avec cette pression, et essayer de faire partir les membres du FOMC parce que derrière le président des États-Unis peut nommer une nouvelle personne. L'objectif de l'administration Trump est de prendre le contrôle du FOMC, sachant qu'ils ont déjà Bowman et Waller pour eux, parce que nommés par Trump, et prendre le contrôle du FOMC. Je vous rappelle que vous avez 12 membres votants, il faut donc 7 voix. Si à un moment ou un autre l'administration Trump arrive à avoir 7 personnes sur 12 proches nommées par Trump, en gros, la politique monétaire sera aux mains de l'administration Trump. Donc, virtuellement, ce serait la fin de l'indépendance de la Fed. À ça, le marché ne va pas forcément apprécier. Ça peut déstabiliser Wall Street quand même. Mais, en tout cas, derrière, ça veut dire qu'il y aurait des baisses de taux. Et bon, des baisses de taux, si l'inflation est trop haute, le marché peut vraiment faire couler le dollar US. Hein, si on perd confiance dans l'indépendance de la Fed. Ça fera vraiment partie des choses à surveiller au mois de septembre. Plus que jamais, Big Beautiful Bill, vous savez que c'est l'open bar budgétaire aux États-Unis, déficit budgétaire, de la dette publique qui va continuer d'augmenter. Et ça met aussi la pression sur le dollar. Et moi, je vous invite à mettre vraiment sous très haute surveillance les taux obligataires US et en particulier le 30 ans américain. Le 30 ans américain, il faut le mettre sous très haute surveillance parce que c'est le baromètre pour le 30 ans, pardon. Et pas le 3 ans. Et ce seuil-là, vous savez, en septembre, regardez ce seuil-là. Parce que si ce seuil-là saute, la pression sur l'endettement public américain sera majeure. Vous savez que la charge de la dette est presque équivalente bientôt au budget de la défense des États-Unis. En gros, si ce seuil saute, le marché action sera sous pression. Derrière, les taux obligataires de l'État impactent les taux obligataires des entreprises, rappelez-vous. Des taux longs qui montent comme ça, vous avez une grande partie des entreprises américaines qui ne supportera pas, notamment les plus faibles. Je ne parle pas des stars de la tech, je ne parle pas des GAFAM. Donc ça, quant à savoir si nous aurons un mois de septembre de peur ou de piège, c'est-à-dire de piège de saisonnalité, c'est-à-dire d'opportunité, le 30 ans américain sera majeur. La seule façon, vous savez, de le faire baisser, c'est une politique monétaire à nouveau accommodante de la Fed, qui peut agir pour maintenir le taux bas. Et bon, ça c'est un des baromètres majeurs à vraiment mettre sous haute surveillance. Alors ce mois de septembre, alors la France ne fait pas le marché action mondial, mais ça peut déstabiliser l'Europe, et donc derrière, oui, ça peut intervenir, ça peut gêner le marché action. Je ne vais pas parler de politique, tout le monde connaît les différentes échéances qui arrivent en France, et rappelez-vous que la première dissolution française, que l'instabilité politique il y a un an en France, avait quand même déstabilisé le marché action européen, le CAC 40, les banques françaises, donc les banques européennes, donc l'euro, donc il faut faire attention à tout ça. C'est quoi le baromètre de marché ultime? Il y en a plusieurs. Vous pouvez comparer par exemple le taux obligataire français au taux obligataire italien. Si le taux de la France à 10 ans passe au-dessus du taux d'Italie, c'est qu'il y a anguille sur roche. Mais en fait, le marché regarde surtout le spread entre le taux obligataire de la France et le taux obligataire de l'Allemagne. Et ce spread teste vraiment, il y a un seuil majeur, une grosse zone de résistance. Et si jamais elle passe, donc c'est l'écart. Actuellement, ça veut dire que le taux à 10 ans français est 0,79% au-dessus du taux allemand. Si cette zone saute et que ça s'emballe, c'est que vraiment la dette publique française devient hors de contrôle. Si le rendement obligataire français dépasse le rendement obligataire italien à 10 ans, c'est vraiment que les choses deviennent hors de contrôle. Et ça, ça peut déstabiliser le marché action européen et ça peut agir globalement sur les actifs risqués en bourse de manière générale. Donc, c'est un des thèmes aussi majeurs à suivre ce mois de septembre. Et puis, alors là, oui, je mis autre, alors... On peut lister tout ce que vous voulez, la géopolitique, la relation commerciale Chine-États-Unis, les résultats des entreprises, la stabilité financière, la stabilité des banques. Bon, les thèmes d'influence ne manqueront pas, mais j'estime surtout que ce mois de septembre, c'est la Fed qui va compter. Et la Fed et le crédit américain. Le crédit américain me semble être un sujet majeur. Alors, chers amis, après avoir vu ces différents aspects techniques, cycliques et fondamentaux, d'après vous, j'irai vous lire, d'après vous, hein, parce que même moi je suis dans le brouillard, d'après vous, ce mois de septembre, peur et début du bear market, ou piège de saisonnalité, opportunité, et derrière on repart bien pour terminer l'année. Merci à toutes et à tous de votre attention.